le radical Kadosh, Kouf Dalet Shin, et il semblerait donc que c'est ça le projet du septième jour. Le projet du septième jour est en rapport avec le mot Kadosh, c'est ce qu'on appelle la Kedusha. D'accord? Et il faut, effectivement, quand on lit dans le livre de Vaïkra, dans le chapitre Yud-Tet, il est dit là-bas, Daber el kol adad bene Israël les morts, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël en ces termes, Kedoshim fihiyu, vous serez Kedoshim. On traduit en général Kadosh par saint. Vous serez donc saint. Et ça semble donc être l'accomplissement du projet du septième jour. Si c'est vrai ce que je vous dis, alors viendra un jour où il sera dit Vayihiyu Kedoshim, et ils furent saints. Vayar Elohim Kitov, Elohim a vu que c'était bon. Vayihere Vayiboker Yom Hashevi, il fut soir et fut matin, septième jour, et alors commencera le huitième jour. D'accord? C'est-à-dire, si on voit le projet de la Torah, il y a donc au sein du septième jour un accomplissement de l'identité humaine qui doit se réaliser, et cet accomplissement est appelé sainteté. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire exactement, mais à supposer que c'est ça, donc ça veut dire que le projet du septième jour s'appelle Kedusha. Voilà, c'est clair? Oui. Oui. Chapitre Yud-Tet. Yud-Tet. C'est le chapitre en français Xix. D'accord? Oui, Xix. Ça vient après Xvi. D'accord? Ceux qui n'ont pas compris, c'est leur problème, ils auraient dû poser la question, mais c'est pas grave. Je suppose que vous avez tous compris. Donc, va y voir, Elohim et Tiamashi, va y kadeshoto, qui vaut Shabbat Melkol Melarto, car en lui, il avait cessé toute son œuvre, Asher Bara Elohim, qu'il avait seulement commencé, la Asot pour finir. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Maintenant, indépendamment du problème de savoir qu'est-ce que c'est que le Yom Hashevi, qu'est-ce que c'est que la Kedusha, j'ai quand même un petit problème avec ce que je vous dis là. Si vous regardez dans Vaïkra, dans le chapitre Tet cette fois-ci, c'est-à-dire qui porte le beau nom en français de X, n'est-ce pas? Chapitre Tet, comment? Oui, tout à l'heure. Oui, dans Vaïkra, Vaïkra, le Lévitique, on dit en français. Oui. Le livre de Vaïkra, au chapitre Tet. Alors, ça, il est là-bas, il est dit, Vayehi, Bayom, Ha, Shemini. Et ce fut le huitième jour. Conclusion, si je prends au sérieux ce que dit la Torah, le huitième jour a commencé. Mais, le septième jour n'est pas achevé. Ce qui fait que nous vivons dans un monde un peu bizarre, un monde du septième jour, dans lequel le huitième jour a déjà commencé. Ça tient pas la route. Vous avez compris mon problème? Bizarre, effectivement. Oui? J'ai pas compris la question. Il y a un temps qui s'appelle Ben Hashmashot, après le coucher du soleil, avant la sortie des étoiles. Quel est le problème? Gros problème. En effet, la Mishnah, dans Maseret Avot, dit qu'il y a 10 choses qui ont été créées à ce moment-là. Ben Hashmashot. Asarat Varim Livreu, Erev Shabbat, Ben Hashmashot, le vendredi après, entre les deux soleils. C'est-à-dire entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. C'est quoi ces 10 choses? Ce sont les miracles. Les miracles. D'accord? Par exemple, le bâton de Moshe, etc. D'accord? Donc, la bouche de l'ânesse de Bilham. Là, tous ces machins-là, qui sont des miracles. Et la Mishnah nous dit, les miracles ont été créés à l'entrée du septième jour. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre? Ça veut dire d'abord qu'il y a un lien, qu'il y a un moment de, comment dirais-je, de juxtaposition, on pourrait dire, oui, du sixième et du septième jour. Pourquoi c'est comme ça? Oui.
Le Ben Hashmashot, on parle de celui qui est celui du sixième jour.
Non, c'est une autre question. Ce sont deux questions différentes. La question que j'ai posée, comment se fait-il que le huitième jour a commencé si le septième n'est pas encore fini? Et ta question concerne le rapport entre le sixième et le septième. Ah, d'accord. Alors, tu voudrais dire que nous sommes en fait dans le Ben Hashmashot. Oui, ça pourrait tenir le coup. Mais non, on va voir pourquoi non. D'accord? Mais comme tu as posé la question du Ben Hashmashot, je ne peux pas me retenir, je suis obligé de parler de cette histoire des 10 choses qui ont été créées à l'entrée de, à l'entrée du septième jour. Alors là, je voudrais poser, ça va nous obliger à ouvrir un sujet. Le problème est de savoir, est-ce que le miracle est quelque chose de possible? Oui, quoi? Non. C'est évident que c'est possible, étant donné que la Torah nous parle des miracles. Mais le problème est de savoir, philosophiquement parlant, est-ce que le miracle, ça tient la route ou pas? Il y a, à ce propos, trois positions différentes. La première, c'est celle de ce qu'on appelle le pragmatisme ou l'occasionnalisme du philosophe anglo-américain William James. Il y a ce qu'on appelle le rationalisme, qui est courant chez les penseurs latins. Et chez les anglo-saxons, il y a le pragmatisme. Chez les latins, il y a le rationalisme. Et il y a également l'opinion de la Torah. Maintenant, l'opinion de la Torah, je vous dis tout de suite, c'est la bonne. D'accord? Mais avant de voir ce que dit la Torah, essayons de comprendre un peu comment ça marche. Il y avait, donc, dans le monde anglo-saxon, si on revient plus anciennement, il y avait déjà chez les Grecs le démocritisme, et après chez les Arabes, il y a eu les mutakallamin, qui affirment qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de causalité. C'est-à-dire, il est faux de penser qu'il est normal que le soleil se couche, ou qu'il se lève. Le soleil se lève, il aurait très bien pu ne pas se lever. Comment? Ah non, enfin, je me suis trompé. Il y a donc cette théorie comme quoi le fait que le soleil se lève n'est pas quelque chose d'obligatoire, ça aurait très bien pu ne pas se passer, et comme par hasard, le soleil ce matin, il s'est levé comme hier. Et il se couchera probablement comme hier aussi. Mais en fait, rien n'oblige à ce que ça se passe comme ça. Il n'y a pas ce qu'on appelle de causalité. D'accord? Il y a des fondements de cette idée-là chez le philosophe David Hume. Enfin, bref, peu importe. C'est, selon cette pensée-là, le miracle n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de nature, donc il n'y a pas de miracle. D'accord? Ça, c'est l'opinion du pragmatisme, ça s'appelle. L'opinion inverse, c'est celle qu'on appelle le rationalisme, qui affirme que les lois de la nature, c'est l'être. C'est-à-dire, le monde, c'est la nature. Selon cette pensée-là, le miracle est impossible aussi. Pour une autre raison. D'accord? C'est-à-dire que, le miracle c'est une absurdité. Puisque le monde, c'est la nature, c'est le monde, donc il ne peut pas y avoir autre chose. D'accord? Ça, c'est la deuxième opinion. Le rationalisme. Ça veut dire qu'en fait, selon ces deux opinions-là, l'idée de miracle est impossible. Qu'est-ce qu'enseigne plus précisément la Torah? Eh bien, je vais vous dire, elle n'enseigne ni l'un ni l'autre. Elle nous raconte comment s'est passée l'organisation du monde, la formation du monde. Elle nous parle d'une formation du monde en deux parties. La première partie, c'est du premier au sixième jour, et la deuxième, c'est le septième jour. Dans le récit de la Torah, premier au sixième jour, il y a une intervention permanente de Dieu dans le monde. En fait, rien n'est fixe. Tout peut changer à tout moment. Ça vous rappelle l'opinion? D'accord. Et dans le septième jour, la Torah nous parle d'un monde qui est fixé. Ça vous rappelle la deuxième opinion, celle du rationalisme. Et il y a un point de contact entre le sixième et le septième. Ça s'appelle Ben Hashmashot, le moment entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Ça appartient aux deux catégories à la fois, au sixième jour et au septième jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lois de la nature, ça existe, mais ça n'a pas existé au départ. C'est-à-dire que quand Dieu a créé le monde, il ne l'a pas créé sous forme de nature figée. Ce n'est que plus tard que la nature est devenue ce qu'on appelle le septième jour, c'est là que ça a pris une forme fixe. Mais, puisque ça n'est pas à l'origine, donc on peut revenir en arrière. Si c'est nécessaire, alors on peut creuser dans la profondeur du septième jour et arriver à une couche du sixième. Et c'est comme ça que se font les miracles. Comment ? C'est très dommage. Qu'est-ce que tu veux que j'explique ? Oui, je peux répéter, bien sûr. Ça veut dire que la nature n'a pas été le point de départ de la création du monde. C'est-à-dire les lois n'étaient pas fixes. Tu es avec moi ? Et donc, si les lois se sont fixées plus tard, ça veut dire qu'elles ne sont pas obligatoires. C'est comme une habitude. J'ai l'habitude de faire telle chose, mais est-ce que c'est une loi ? Non, je peux revenir sur mon habitude. C'est pour ça que le terme de nature n'existe pas chez les Chachamim et qu'il s'appelle Minhago shel Olam, l'habitude du monde. Voilà, l'habitude par exemple, c'est que le Rav Naon arrive pendant le cours, bien sûr. C'est son habitude, mais il peut venir plus tôt, plus tard, d'accord ? C'est la même chose pour les lois de la nature. Les lois de la nature ne sont, ça existe, il y a vraiment la nature, mais comme ce n'est pas l'ordre du départ, alors ça peut changer. Donc on peut faire des miracles. C'est clair maintenant ? Justement, elles sont mal là, puisqu'elles n'étaient pas au départ. C'est-à-dire, c'est comme si, voilà, si tu as un morceau de métal, il n'est pas malléable, il est dur, mais tu peux le faire fondre. C'est-à-dire que, puisque au départ, c'était pas figé. La même chose pour les lois de la nature. D'accord ? C'est-à-dire, les lois de la nature, c'est le septième jour. Et le sixième jour, c'est le temps où tout est possible. Et donc, le contact entre le sixième jour et le septième jour, c'est là que le miracle est possible. Ben Hashmashot. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il a fait un monde sans loi au départ. Et alors, tu reposes la question une deuxième fois. C'est... Non, mais c'est pour ça que la Torah te raconte qu'il y a le septième jour. Et que lors du septième jour, ça s'est fixé. Ah, pourquoi ? Ben pour créer le septième jour. Le septième jour étant le lieu de l'autonomie de l'homme. Comme on a étudié dans les derniers cours, nous avons vu que le septième jour, c'est la sphère dans laquelle l'homme peut agir. Et pour ça, il a besoin de stabilité. Par exemple, quand je m'assois sur une chaise, je ne dois pas craindre à tout moment que la chaise fonde, ou qu'elle devienne du marshmallow, par exemple. D'accord ? Oui. Non, ça veut dire que la capacité de faire des miracles vient de ce moment de Ben Hashmashot. D'accord ? Oui. C'est très intéressant, ça n'a rien à voir avec notre cours, donc on s'en fiche. D'accord ? D'accord, j'ai rien qu'hier, quelqu'un m'a téléphoné, son fils est né au moment du coucher du soleil. Quand est-ce qu'il fait la circoncision ? Voilà. D'accord ? Intéressant. Je vous ne dirai même pas ce que j'ai répondu, parce que c'est pas le sujet du cours. Ouais. Je crois deviner d'ailleurs qu'un des intervenants dans ce cours est dans ce cas-là. Oui. Parce que Ben Hashmashot, c'est le contact entre le sixième et le septième jour. Le septième jour, c'est le jour de la nature. Il y a des lois fixes. Dans le sixième jour, tout est possible. Mais comment faire que la nature change ? Eh bien, c'est grâce au contact entre le sixième et le septième. Non, au contraire, ça veut dire que quand on dit qu'il a fait les miracles Ben Hashmashot, qu'il a créé la possibilité du miracle de Ben Hashmashot, c'est-à-dire qu'il a installé dans le monde de la nature la possibilité du changement. C'est pas ça que j'ai dit, mais tu répètes ce que tu as dit, alors que je te dis que c'est pas ça que j'ai dit. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude, quoi. Ah, c'est terrible ce que tu dis là. Eh bien, bon, je reviens. Quand on dit que Dieu a créé les miracles Ben Hashmashot, ça veut dire qu'il a mis un dispositif qui permet le miracle dans la nature. Ce dispositif s'appelle Ben Hashmashot. D'accord? C'est-à-dire le lieu de contact entre un monde où tout est possible et un monde où tout est fixé. D'accord? Non, ça n'a rien à voir. Simplement, ça veut dire que quand on dit que HaKadosh Baruch Hu a créé la possibilité des miracles pendant Ben Hashmashot, ça veut dire que le dispositif qui permet les miracles s'appelle Ben Hashmashot. C'est tout. D'accord? C'est à moi que tu parles, au fait. Ouais. Ouais, d'accord. Bon. Enfin, donc, revenons à notre histoire du huitième jour. D'accord? Ça, on n'en a pas encore vraiment parlé. Donc, j'ai amené un verset de Vayikra, de chapitre 9, et qui dit que le huitième jour a commencé. N'est-ce pas? C'est dans quel contexte? Vayihi bayom hashemini, et ce fut le huitième jour. Qu'est-ce que c'est que ce huitième jour? C'est le jour de l'inauguration du Mishkan. D'accord? Le Mishkan, le tabernacle, dont la Torah dit dans le livre de Shemot au chapitre Kafhe, verset Chet, elle nous dit « Ve'asuli mikdash ve'shachanti betoham » ils me feront un lieu de sainteté. Mikdash, c'est la racine kadosh. N'est-ce pas? Et je résiderai parmi eux. Conclusion, le lieu où se réalise la Kedusha, ça fait partie du huitième jour, c'est-à-dire le Beit HaMikdash. C'est-à-dire, quand vous entrez dans le Beit HaMikdash, vous rentrez en plein huitième jour. Vous ressortez du Beit HaMikdash, vous ressortez dans le septième. C'est-à-dire que le Beit HaMikdash serait une ambassade du huitième jour en plein septième jour. Dans notre monde, ou si vous voulez, une anticipation, quelque chose qui ressemble au huitième jour, se produit dans le Beit HaMikdash. Donc si on veut savoir de quoi a l'air le huitième jour, ben rentrez dans le temple de Jérusalem et vous êtes en plein huitième jour. Hein? Disons comme ça, je pense que nous avons étudié cette idée que viendra un temps où il sera dit « Vayiyu Kedoshim » et ils furent saints. Vayar Elohim Kitov, et Elohim a vu que c'était bien. Vayir et Vayiboker Yom HaShivi, il fut soir et fut matin, septième jour. Et alors commencera le huitième jour. Ça veut dire que ce qui se passe dans le Beit HaMikdash actuellement, enfin, quand il est construit, ressemble à l'état du monde entier lors du huitième jour. Oui. T'as compris ou pas? Ouais, c'est sûr. Répète. Que? On sera dans le huitième jour, voilà. D'ailleurs, ça vous explique quelque chose d'intéressant. Il y avait un pays en Europe, à l'époque où l'Europe était européenne, qui a fait une révolution. Et oui, c'était il y a 250 ans à peu près. Ils ont coupé des têtes et ils ont fait la révolution. Et ils se sont dit qu'ils étaient arrivés à un monde merveilleux, parfait. Et ils ont réformé le calendrier. Ils ont appelé ça le calendrier révolutionnaire. Le calendrier révolutionnaire. Et ils ont supprimé la semaine, et ils ont inventé la décade. C'est-à-dire, les mois étaient des mois de 30 jours divisés en 3 décades, c'est 3 groupes de 10 jours. C'est-à-dire qu'on en a fini avec le 7e jour. Ils avaient le sentiment d'être passés au-delà. D'ailleurs, un des chefs de cette révolution, qui était croyant, il était contre l'Église, comme tout le monde à l'époque, mais il était croyant et il a donc fait un décret de l'Assemblée nationale de ce pays, et dans lequel il a fondé ce qu'on appelle le culte de l'être suprême. Ça vous dit quelque chose? Oui. Bon, alors, le culte de l'être suprême, c'est donc un décret de l'Assemblée nationale qui a décidé que Dieu existe. Donc, il a pu sortir de la clandestinité. Jusqu'à ce moment-là, Dieu était hors la loi. Mais, étant donné que l'Assemblée nationale a décidé que l'être suprême existe, alors il a pu exister. Hein? J'ai rien compris. Et vivre parmi nous. Alors justement, comment est-ce que c'est décompris, cette histoire d'être suprême? C'est pas exactement le Dieu de la Bible, hein. Attention, c'est autre chose. C'est un être suprême, et dans la loi, il est dit la chose suivante, que les attributs de cet être suprême sont la vérité et la liberté, et la vertu, je crois aussi, et que son sanctuaire, c'est le monde. Son sanctuaire, c'est le monde. C'est-à-dire, ils se sont crus en plein huitième jour. Ils en ont perdu la tête. D'accord? Ah, je me rappelle, c'était la France. Ah, c'est, oui, ça, j'avais oublié le nom du pays. Voilà. Donc, c'était la France. Comment? Elle était européenne à l'époque, oui. Elle était, oui. Enfin, bon, Dieu est son âme. Et donc, c'est ça le huitième jour, un temps où ce qui se passe dans le Beth Amikdash se passe dans le monde entier. Oui. On n'a pas parlé du Shabbat jusqu'à présent. Le septième jour, c'est pas le Shabbat. Nulle part dans le texte que nous avons lu, il n'est question du Shabbat. Le septième jour, c'est maintenant, n'est-ce pas? Oui, lui, il est dans son Shabbat, mais nous, on est dans les six jours de la création. Nous sommes les goyim de Shabbat du bon Dieu. D'accord? Mais on n'a pas parlé du Shabbat, on a parlé du septième jour. Oui, c'est son Shabbat. Oui, quand son Shabbat sera fini, on va rentrer ensemble dans le huitième jour. Hein? On reçoit la sainteté du Shabbat avant le Shabbat. D'accord? C'est-à-dire, il y a un rayonnement du Shabbat avant le Shabbat qui fait qu'on peut accepter le Shabbat plus tôt. D'accord? Qui c'est qui dit, n'arrête pas de dire Mashiach ici? C'est toi? Mais j'ai pas dit le mot Mashiach une seule fois. J'en sais rien. Pour savoir, moi, je vais dire une chose. Je suis extrêmement étriqué dans mes horizons. Et donc, je n'étudie que le texte de la Torah. Si la Torah n'a pas dit le mot Mashiach, je ne sais pas ce que ça veut dire. À ce moment-là. Plus tard, on saura peut-être. Oui? Après, on verra qu'effectivement, la Torah en parle, mais on va voir comment. Oui?
Ah, est-ce que vous voyez la phrase que vous avez dit, et normalement, ce sera, à la fin du septième jour, il y aura marqué Vayu Kikadosh?
Il sera dit.
Oui, il sera dit.
Il sera dit Vayu Kedoshim.
Il n'y a jamais marqué
du pain dans la Torah. Non, il y a écrit Kedoshim Tiyu, vous serez Kedoshim. Il n'y a pas écrit Vayu Kedoshim. Ça ne s'est jamais passé. Alors, c'est vrai que la Torah dit du peuple d'Israël Am Kadosh. Am Kadosh Ata. Et qu'au niveau de l'âme collective d'Israël, on a déjà abouti à ça. D'accord? C'est la raison pour laquelle chaque semaine, nous consacrons un jour de la semaine à se comporter comme pendant le huitième jour. Ce jour s'appelle le Shabbat. D'accord? C'est-à-dire que le Shabbat, c'est pas le septième jour. C'est le huitième jour chaque semaine. Oui? Oui? Ah, c'est terrible ce que tu dis là.
Oui? Est-ce que ça veut dire que l'endroit du Beth Amikdash, même s'il n'y a plus de Beth Amikdash,
exactement, c'est ce que dit le Rambam. Le Rambam nous dit, la Shekhina n'a jamais quitté ce lieu-là, et donc, même s'il n'y a pas de Beth Amikdash construit, il faut faire les sacrifices. Au contraire, c'est-à-dire, si tu dis qu'il y a la sainteté, donc il y a toutes les règles d'interdiction d'entrer dans le Beth Amikdash qui ont encore cours aujourd'hui. Non, ça c'est autre chose. Tu demandes savoir... Est-ce que la halakha m'autorise à rentrer dans certaines parties du Harabait? D'accord? Ce sujet est un sujet brûlant que je ne vais pas aborder. Voilà. C'est comme ça. Et c'est la déception permanente avec moi. Bon. Maintenant, donc, pour revenir à cette histoire donc du huitième jour, et on arrive au huitième jour quand on arrive à la Kedusha. Maintenant, si c'est vrai ce que je vous ai dit, que Le Beth Amikdash est un endroit du huitième jour. C'est donc un corps étranger dans le monde. Qu'est-ce qui se passe quand dans un organisme s'introduit un corps étranger? Il est rejeté. Il est rejeté. Ou bien il rend malade. Ah oui? Intégré. Il peut être quoi? Permet quoi? Je comprends rien. Il peut être bénéfique. Mais en tout cas, c'est pas banal. D'accord? Alors, on va voir plusieurs possibilités. En général, un corps étranger est rejeté. Oui. Ce qui vous explique pourquoi le Beth Amikdash est détruit de temps en temps. D'accord? Il est rejeté par le monde. D'accord? Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est qu'il soit intégré dans le monde. Alors, ça veut dire que le monde est capable d'entrer dans le huitième jour. C'est-à-dire que la Kedusha a été acquise. Hein? Oui? Oui, pour l'instant, mais ça viendra. Il viendra un temps. Il viendra un temps où ce qui se passe dans le Beth Amikdash se passera dans le monde entier. Qu'est-ce qui se passe dans le Beth Amikdash? Oui.
Comment c'est possible alors qu'on a eu des Beth Amikdash précédents?
Oui, et à chaque fois ça a raté.
Oui, mais ça, vous avez dit qu'il y a un Beth Amikdash, alors ça va être le monde des Kadosh.
Non. Viendra un temps où?
Ça prend du temps même quand il y a un Beth Amikdash.
Oui, mais quand on construira le troisième Beth Amikdash, Bimera Be'amenu, Inch'Allah, Amen. D'accord. Eh bien, quand on le construira, alors, il va à nouveau être détruit ou pas? Alors, c'est intéressant parce que il y a un enseignement des Balei HaTosfot d'Angleterre, dans les Chidushim des Balei HaTosfot Rachmei Anglia. Il est dit, dans ce traité de Sanhedrin, il dit que le troisième Beth Amikdash va durer 830 ans. 830 ans. Une seconde. Pourquoi 830? C'est 410 plus 420. 410, c'était la durée du premier Beth Amikdash. 420, celle du deuxième Beth Amikdash. Donc en tout, ça vous fait 830. Et qu'est-ce qui se passe après? Les Tosfot ne le disent pas. À mon avis, ce qu'ils veulent dire, c'est que le troisième Beth Amikdash sera un point de départ d'expansion de la Kedusha. Viendra un temps où il y aura une symbiose entre le Beth Amikdash et le monde qui fait qu'il n'y aura plus de différence entre le Beth Amikdash et le monde. On peut le prouver sur la base de certains versets dans Zecharia. Oui.
Vous avez dit le monde, mais de quel monde vous parlez? Vous parlez du plan Israël ou du monde des Goïm aussi?
J'ai découvert quelque chose d'intéressant ces derniers temps. J'ai découvert deux choses qui m'ont beaucoup surpris. D'abord que Dieu a créé les Goïm. Ça a été pour moi une révélation. Et à part ça, j'ai découvert qu'il les a mis sur la même planète que nous. Moi, j'aurais pas fait ça. Alors, une seconde. Si le bon Dieu, il a créé les Goïm et qu'il les a mis sur la même planète avec nous, alors ça veut dire probablement qu'il y a un projet commun dans lequel chacun remplit un rôle. D'accord? Est-ce que, voilà, bon. Oui?
Est-ce que quand on revient au troisième point, c'est
bien sûr le troisième point. Amen. Inch'Allah. Oui.
Et qu'on va revenir, voilà, c'est la période où il y aura le but où sera le huitième jour.
Enfin, on va y revenir, on va y accéder. Oui.
Est-ce qu'on va revenir au temps, matériellement, au temps que c'est le temps du huitième jour?
Est-ce que ça va ressembler au premier et au deuxième? Non, ça ressemblera au troisième. Parce que, en mathématiques, j'ai appris que 1 plus 2 égale 3. C'est-à-dire que, l'histoire avance. La mitzvah de construire le Beth Amikdash est la seule mitzvah à géométrie variable. Le Mishkan ne ressemble pas au premier temple, ni au deuxième, ni au troisième. C'est-à-dire que à chaque fois, il y a un autre réceptacle du flux divin. Oui.
Est-ce qu'en gros, pour faire ça en plus gros, est-ce qu'à l'entrée, il y aura un écran avec marqué les horaires de l'univers?
Elle est pas mal, celle-là. À savoir. D'accord. Peut-être. Mais pourquoi Mincha? Shacharit, ça t'embête? C'est un peu tôt. Ouais. Bon.
Est-ce que ce sera adapté comme ça?
Tout est possible. On verra bien. D'accord? Oui. Bon. Le Rambam dit que ce qui se passe dans l'avenir, personne ne sait le détail des choses. D'accord. Bon. Alors, je reviens à une histoire de la Kedusha. Qu'est-ce que c'est que la Kedusha, bon flanc? Alors, si on voit ce que dit la Torah du Bet Amikdash, elle nous dit qu'il faut 3 fois par an se rendre dans le temple de Jérusalem pour y voir la face, ou pour être apparu par la face, Yera et Pene Hashem, pour être vu par le visage de Dieu. C'est quoi un face-à-face? Un face-à-face, c'est une relation sans intermédiaire. Ça s'appelle une relation immédiate. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde où il y a la nature fait écran, et viendra un temps où la nature ne fera plus écran. D'accord? C'est ça le 8e jour. Et en fait, c'est le projet du 8e jour. Maintenant, comment est-ce que ça se réalise? Alors la Torah va nous donner des indications très importantes. Pour cela, nous devons revenir au texte, au chapitre Bet, au verset Dalet. D'accord? Chapitre Bet, au verset Dalet. Tu y es? Très bien. Je suis fier de toi. Comment? À quoi ça sert que je dise 3 fois la même chose si après tu demandes une 4e fois? Vous pouvez pas l'aider un peu? Chapitre Bet. Bet. D'accord? Qui, malgré son nom, est certainement très intelligent. Oui? Peut-être. Pourquoi tu poses la question? Justement, c'est très intéressant. Mais notre sujet actuel n'est pas le Bet Hamikdash, et donc nous allons laisser tomber la chose. D'accord? C'est un sujet très vaste, et je ne peux pas m'y arrêter maintenant. Maintenant, nous sommes dans le chapitre Bet, au verset Dalet. À partir de ce verset Dalet, la Torah va nous raconter la création du monde. Ah bon? Mais elle l'a déjà fait. Très bizarre. Regardez maintenant le premier mot du verset d'Alet. Elle est. Voici. Dans la Torah, ce mot apparaît sous 2 formes. Parfois elle est, parfois ve'elle. Elle veut dire voici, ve'elle veut dire et voici. C'est pas pour rien. Les Chachamim dans la Mechilta ont dit ve'elle mosif ala rishonim. Quand on dit et voici, ça veut dire que ça vient en rajouter sur ce qui a été dit plus haut. Évidemment, et voici. Donc, ce qui a été dit plus haut a un sens, il est pertinent, mais on rajoute encore autre chose. Ve'elle. Mais quand il est dit elle, dit la Mechilta, assal et arishonim, c'est pour disqualifier ce qui a été dit avant. Conclusion, tout le récit de la création du monde que nous avons vu jusqu'à présent est à être éliminé. Delete. D'accord? Justement. Alors ça veut dire quoi? Pourquoi la Torah nous a dit quelque chose et après elle dit non, il faut effacer. Mais après il faut pas effacer, on le laisse quand même. D'accord? Mais il faut comprendre donc qu'est-ce que veut dire les Chachamim quand ils disent elle. Ça veut dire que tout ce qui a été dit jusqu'à présent devient caduque, sans valeur, à partir du moment où on arrive à ce verset-là. Quelle est la différence entre le récit de la création du monde dans le premier chapitre et le 2e récit de la création du monde que nous allons lire maintenant? Alors, il y a plusieurs différences importantes. Tout d'abord, si vous vous rappelez le premier verset de la Torah, il est dit « Bereshit bara Elohim ». Donc, qui c'est qui crée selon le premier verset de la Torah? C'est Elohim. D'accord? Il crée. Et le terme employé, c'est « bara ». Maintenant, regardons dans le verset d'Alet du chapitre Bet. Ele toledot hashamaim ve'aretz. Voici les engendrements du ciel et de la terre. Behi baream, lorsqu'ils furent créés, ou bien lorsqu'ils se créèrent. Oui, le he est un petit he. Il y a des raisons à ça. D'accord? Mais, comment? Il y a des raisons kabbalistiques, il y a des tas de raisons, enfin bon, les Midrashim aussi en parlent de ce petit lait. Mais remarquez, c'est très différent de ce que dit la Torah auparavant. Voici les engendrements du ciel et de la terre lors de leur création. Oui. Ça veut donc dire que c'est la nature qui se crée. Et ce que tu dis là, ça veut dire que la création est active. Tandis que dans le premier chapitre, la créature est totalement passive. C'est le bon Dieu qui fait tout. Et là, il y a une participation de la création à sa propre création. Oui? Hein? Oui? Évidemment. Puisqu'on a parlé du septième jour, et que dans le septième jour, il y a une activité de la création. Alors maintenant, ce qu'on va découvrir, c'est que le monde entier est en train de se renouveler à travers ce septième jour. D'accord? Et ça s'appelle Toladot. Si vous voulez, si on voulait dessiner ça, ça voudrait dire que le premier récit de la Torah est vertical, et que là, il devient horizontal. C'est-à-dire, vertical, c'est Dieu qui crée chaque chose l'une après l'autre. Après, ça devient horizontal, ça passe à travers l'histoire, à travers le temps. Oui. Pourquoi ne pas avoir commencé directement par l'axe horizontal vis-à-vis du temps? Parce qu'il est impossible de faire participer quelqu'un si on ne l'a pas d'abord créé. Oui, lorsqu'il se crée, mais il faut d'abord qu'il soit créé. C'est-à-dire, il faut d'abord qu'Akadosh Baruch Hu crée le monde et qu'après le monde se crée. Oui? Ah. Alors justement, le Behi Bara'am, ça devrait dire Behi Asotam, n'est-ce pas? Tu as tout à fait raison, c'est pour ça que le verset continue. Beyom Asot. Hashem Elohim Eretz Veshamay. Lorsque Hashem Elohim fait, donc il fait parfait la terre et le ciel. Et ça commence par la terre. Eretz Veshamay. D'accord? C'est-à-dire, pour que ça se fasse, pour que ça se crée Bara, il faut que ça passe par Asiya et que la Asiya se fasse par Eretz avant Shamaï.
Mais comment va sortir la création, elle arrive à faire un bara, même si ça passe par l'Asiya?
Comment est-ce qu'elle arrive? Non, c'est-à-dire, étant donné qu'elle a son mérite, donc c'est sa bria. C'est-à-dire, il y a quelque chose de nouveau qui passe par la création que Dieu n'a pas donné. Et ça passe par l'action libre. Elle se renouvelle par elle-même. C'est-à-dire, il y a une activité de la création à sa formation. D'accord? Oui. Alors justement, c'est les engendrements. Le mot toladot, ici, est très important. Le mot toladot apparaît 14 fois dans le Tanakh. D'accord? 14 fois dans le Tanakh. Toldot, toladot, la même chose. D'accord? Toujours écrit toldot, d'ailleurs. Le mot toldot apparaît 14 fois dans tout le Tanakh. Oui. Comment vous dites? Dans tout le Tanakh. Maintenant, ma question est la suivante. Comment est-ce que vous appelez le mot Toldot? Génial. Tav, Vav, Lamed, Dalet, Vav, Tav. 6 lettres, n'est-ce pas? Cette manière d'écrire le mot Toldot n'apparaît que 2 fois en tout et pour tout dans tout le Tanakh. La première fois, c'est où? Non, pas du tout. C'est là. Tout simplement. Ça, c'est la première fois. Donc, si je demande où c'est la première fois, c'est là. Oui. Maintenant, où apparaît la deuxième fois? Non. Regardez tout le lot noir. Regardez une seconde. Puisque vous le dites. Vous avez l'air assez intelligent. Regardez, au début de la paracha de Noir. Il y a écrit tout le lot noir. Comment c'est écrit? Sans le vav à la fin. Hein? Regardons dans Shemot. Non, il n'y a pas. Non, alors, je vais vous dire tout de suite. Il y a parfois avec un vav au début sans le vav à la fin, parfois avec le vav à la fin sans le vav au début. La seule fois où ça apparaît à nouveau, ce n'est pas dans la Torah. C'est pas dans la Torah. C'est dans le livre de Ruth. Oui, quoi?
Il y a un problème.
Pourquoi? Oui, ben c'est les imprimeurs. Bah oui, les imprimeurs sont pas responsables. On va pas les accuser quand même. Mais en tout cas, donc, La deuxième fois, et là, qui est également la dernière, c'est dans le livre de Ruth. Comment finit le livre de Ruth ? Ve'ele toledot paretz. Voici les engendrements de Peretz. Peretz, c'est le fils de Yehuda. De Yehuda. Et de Tamar. Celle qui avait un drôle de teint. Un drôle de teint Tamar. Et donc il y a Peretz, et après ça, il y a toute une série d'engendrements qui arrivent jusqu'à David. N'est-ce pas? David étant l'ancêtre du Mashiach. Donc, ça veut dire que lorsque la lignée humaine qui va donner le messianisme apparaît, c'est l'accomplissement des Toladot. On avait parlé du Mashiach tout à l'heure, ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Non, le dernier de tous les Toldot aussi. D'accord? Et donc, il y a, comme s'il y avait, disons, un Toldot parfait au début, en projet, il y a un Toldot accompli en fin d'histoire. D'accord? Et tout ce qu'il y a au milieu, c'est des Toldot imparfaits. Il y a, c'est toujours, soit avec un Vav au début, soit avec un Vav au début, il y a un endroit où il n'y a aucun Vav. Il y a un endroit où il y a écrit Tav, la mettre dans la Tav. Dans la Torah. D'accord? Et donc, ça veut, oui? Ce sont différentes approximations des Toladot. Oui? Hein? Eh bien, ça veut dire qu'il y a des Toladot, mais c'est incomplet. Ça ne réussit pas à réaliser le projet jusqu'au bout. D'accord? Mais, ça veut dire quand même qu'il s'est passé quelque chose d'important. Si la Torah dit Toldot, ça veut dire qu'il y a eu un progrès en direction de des Toladot parfaites. Non, ça veut dire que l'histoire n'a pas réussi encore. Oui, le premier et le dernier. D'accord? C'est dans le livre de Ruth. Dans le livre de Ruth, il y a un verset, Vele Toledot Paretz. Voici les engendrements de Peretz. Peretz, c'est le fils de Yehuda et de
Tamar.
D'accord? Et, les vannes idiotes. Bon, et donc, et de ce Peretz va finalement arriver la naissance de David, qui est l'ancêtre de la lignée messianique. Donc, quand la lignée messianique réussit, c'est que l'histoire a réussi, et donc on arrive au Toladot parfait. D'accord? Oui? Alors, justement, on voit, justement, c'est-à-dire que finalement, quand ça réussit, la Kedusha peut se réaliser. Exactement. Et donc, dans les Toladot, il y a un seul endroit où il n'y a aucun Vav, c'est Toldot Ishmael. Les engendrements d'Ishmael. C'est-à-dire qu'Ishmael représente quelque chose dans l'histoire des Toladot, mais il y a un manque. D'accord? Bon. Donc, maintenant, si c'est ça que ça veut dire, vous comprenez l'importance de l'engendrement. C'est-à-dire, engendrer, c'est pas simplement avoir des enfants. C'est faire avancer l'identité humaine. Il y a une évolution de cette identité. Et c'est pas toujours le cas. Parfois, c'est simplement une reproduction. Mais parfois, il y a également quelque chose qui avance, c'est les Toladot. Et ça se passe en 14 étapes, si tu veux. D'accord? Maintenant, l'homme, comment vous dites un homme en hébreu? Adam. Ah. Adam ou Ben-Adam? Ben-Adam, ça veut dire quoi? Ben-Adam, littéralement, ça veut dire fils de l'homme. Ben-Adam, ça veut dire fils de l'homme. Hein? Non, justement pas. Parce que le premier homme, c'était pas un Ben-Adam, c'était un Adam. Et pourtant, c'est un être humain. Le premier, il n'est pas le fils de quelqu'un. Oui, donc, très bien. Le Ben-Adam, c'est pas n'importe qui. Ben-Adam, c'est le nom, dans le livre de Tehilim, c'est le nom du Mashiach. Ça veut dire, en fait, l'histoire commence par un prototype, Adam, ça s'achève par un Ben-Adam. C'est-à-dire quand l'homme est capable de créer l'homme. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Eh bien, on n'est plus Adam, mais on n'est pas encore Ben-Adam. Ça veut dire que nous sommes une identité malheureuse qui est en inachevée et qui est en processus d'achèvement. Hein? Ben Adam avec Caïn, ça n'a rien à voir. Non, Ben Adam, ça veut dire entre l'homme. Mais je parle ici de Ben, Bet Nun. Ben Adam, fils de l'homme. Ah, on dit Ben, ah oui, Ben Adam, les Ben Adam. Oui, on peut dire ça, oui, d'accord. D'accord. Donc c'est ça, le projet de la création, c'est de créer finalement le Ben Adam. Et c'est donc l'histoire est une évolution vers ce moment-là. Une fois que c'est réalisé, donc la Kedusha est acquise, donc on peut rentrer dans le huitième jour. D'accord? Ah, bon. Passons au verset Hé. On peut? C'est oui, il est juste après. Donc il y a une certaine logique à passer à vue. D'accord? Vechol siya hasadeh terem yebaaretz. Les buissons des champs n'étaient pas encore apparus sur la terre. Vechol esev hasadeh terem yitzmach. Et l'herbe des champs n'avait pas encore poussé. Ki lo imtir Hashem Elohim al haaretz. Parce que Hashem Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Ve Adam, Aïn, il n'y avait pas d'homme. La avod est à Adama pour faire travailler la terre. Bon, ce verset est extrêmement compliqué. Remarquez un petit point seulement. Comment est appelé le premier végétal? Siar, n'est-ce pas? Vous avez remarqué? Siar, ça veut dire quoi siar? Et ça, qu'est-ce que ça veut dire aussi à part buisson? Un discours. Un discours. Siar. Siar, c'est un discours. Et donc, ça veut dire que on attendait du végétal de savoir parler. C'est une parole en puissance. Ça, c'est en hébreu moderne. Hein? D'accord. C'est une parole. D'accord? C'est-à-dire que le siar, ça veut dire qu'il y a une attente de l'apparition de l'homme. D'accord? Oui. Hein? Qui c'est qui s'est parlé? C'est l'homme, voilà. D'ailleurs, remarquez, au verset Vav, Ve'ed ya'ale mina'aretz. Une vapeur montait du sol. Ed, c'est quoi? Une vapeur. Non, Ed, avec un A'in. Là, c'est avec un Aleph. Ed. D'accord? D'accord? Bon. Donc, ve'ed, ya'ale. Le mot ed, qu'on traduit par vapeur d'habitude, est quand même surprenant. Ça vous rappelle pas un autre mot qui commence par aleph d'alet? Adam. C'est ça? C'est-à-dire, ed, c'est l'ébauche de l'homme. On attend que l'homme apparaisse.
L'ébauche?
L'ébauche, oui. Ouais. Enfin, ne pas confondre avec les boches, qui c'est pour les Allemands, c'est autre chose. Non. Une ébauche, d'accord? D'accord. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Par exemple, tu as en hébreu le mot hen et chinam. Tohu, tehom. Quand quelque chose s'achève, il prend une forme carrée. C'est le même sophit. D'accord? Quand tu as un processus qui commence, alors, le radical se dit avec deux lettres. Et quand il est achevé, il prend un même sophite. D'accord? Par exemple, hen, chinam, tohu, tehom, kina, kinam. D'accord? Donc, ed, adam. Hein? Tehom. Il y a tehu et tehom. Exactement. Ce sont deux formes du tohu. D'accord? Et donc, sans rentrer dans tous les détails de ce que ça veut dire, ce qu'on est en train de lire, ben, ça veut dire que l'homme ici est censé remplir une fonction très importante. Il va permettre la pluie. À quoi ça sert un homme? Amener la pluie. C'est ce qu'il y a écrit. Comment est-ce qu'un homme amène la pluie? En priant. C'est-à-dire, le contact entre le haut et le bas doit se réaliser à travers l'homme. Oui, c'est-à-dire que le siar se manifeste finalement. Je n'ai pas dit que par la prière, mais en tout cas, Rashi amène ici cette idée qu'on attendait que quelqu'un fasse la prière. C'est une des formes du discours, effectivement. Par exemple, l'ifne Hashem ishpor siho. Il verse son discours devant Dieu. Verset Zayin. Le verset Zayin va nous occuper un peu plus. Vayitzer Hashem Elohim et Adam. Et Hashem Elohim a formé l'homme. Là, pour l'homme, on avait jusqu'à présent vu les deux verbes, bara et asa. Bara, c'est un commencement, asa, c'est un achèvement. Et yatsar, c'est quoi? Ben, c'est au milieu. C'est la formation. Quand quelque chose est en train de se former, ça s'appelle yatsar. Donc, vayitzer Hashem Elohim et Adam. Et donc, Hashem Elohim a formé l'homme, c'est-à-dire que l'homme n'est pas entièrement achevé, mais qu'il est en route vers. Et comment il a fait? Afar mina adama. Que veut dire le mot afar? Hein? De la poussière. Ah, poussière. Oui, c'est comme ça qu'on traduit d'habitude, mais ça veut rien dire du tout. Parce que la poussière en hébreu se dit avak. Et, oui? Comment? Ça vient de la terre. C'est afar, c'est du terreau. Mais, vous avez vu qu'il y a écrit afar mina adama. De la terre. Alors c'est quoi de la terre? Il y a une différence entre Afar et Adama. Adama est à rapprocher du mot domem. Domem, ça veut dire ce qui se tait, ce qui est silencieux. Tandis que, d'ailleurs, ce qui explique que si quelqu'un est capable de se taire, c'est qu'on attendait de lui qu'il parle. C'est vrai, il y a ça aussi, d'accord? Mais Afar, c'est la partie féconde du sol. Ce qui peut donner la vie. D'ailleurs, le mot afar, vous avez compris comment ça s'écrit. Ça s'écrit comment afar? Aïn et puis perech. Aïn veut dire l'œil ou la source. Une source, n'est-ce pas? Oui, ma'ayan ou aïn. Par exemple, la source, il y a Engedi, voilà. Engedi, c'est-à-dire la source. D'accord? Donc, Aïn, c'est la source, et par, Peresh, ça veut dire quoi? Non, par. Allez. Par, ça veut dire un bœuf. Mais c'est le verbe, para, qui veut dire se reproduire. D'ailleurs, d'où le mot péri pour un fruit. Pérou ou vous, croissez et multipliez. Donc, la source de la vie qui se cache dans le bio, c'est-à-dire la possibilité de biologie qui se cache dans la nature, afar mina adama. Bon. Vaipah be'apav nishmat ra'im, il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Ça, on a vu que c'était la neshama. Vaye adam le nefesh chaya, et l'homme devint une âme vivante. Alors, bon, c'est très joli tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est pour la prochaine fois. Ciao.